France Inter.
Aujourd'hui, Himalaya, le toit fragile du monde, raconté par
Fanny Brun, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Là-haut, entre l'Afghanistan et la Birmanie, entre la Chine, l'Inde, le Népal et le Bhoutan, s'étire une immense muraille de roches, de glace et de vent, un arc de montagne long de 3500 km, le toit du monde, dit-on, mais c'est aussi le château d'eau de l'Asie. Des milliers de glaciers y respirent lentement. Chaque hiver, ils se chargent de neige. Chaque été, ils la relâchent en rivière. Ces rivières deviennent des fleuves et ces fleuves irriguent la vie de près de 2 milliards de personnes. Des mégapoles indiennes aux vallées chinoises, des rizières du Bangladesh, aux plaines du Pakistan. Une partie donc du destin humain commence ici, dans ce froid minéral. Les hautes montagnes de l'Asie ne sont pas seulement un paysage spectaculaire, c'est un système vivant, un équilibre fragile entre glace, mousson, forêt, villages suspendus et villes en expansion. Depuis quelques décennies, ce système change plus vite que jamais. Les glaciers reculent, l'air transporte des particules de pollution jusque sur les neiges éternelles. Les saisons se dérèglent. Et pourtant, ces montagnes restent habitées, des millions de femmes et d'hommes y inventent chaque jour des façons de vivre avec l'altitude. Agriculture en terrasse, par exemple, migration, solidarité locale, savoir ancien. Le futur du climat mondial se joue aussi dans cette région que certains appellent parfois le troisième pôle de la planète. Un laboratoire du changement climatique à ciel ouvert, où la question n'est plus seulement que va-t-il se passer, mais comment vivre avec ce qui arrive. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Fanny Brun.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. Quand on parle des glaciers himalayens, on imagine donc souvent un bloc unique et assez homogène. On pense surtout à l'Everest et à ses sommets gigantesques. Est-ce que vous pourriez d'abord nous décrire précisément de quoi nous allons parler ensemble aujourd'hui? Parce que j'ai employé deux termes, les hautes montagnes d'Asie ou encore l'Himalaya. Mais il faut préciser les choses pour être tout à fait exact scientifiquement.
Exactement. Alors en plus, quand on ne connaît pas la région, ce qui est le cas de la plupart des auditeurs et des auditrices, on pense Himalaya, on pense tout de suite Everest. Et en fait, l'Himalaya, c'est une petite région de ce qu'on appelle les hautes montagnes d'Asie. Et donc, les hautes montagnes d'Asie, en fait, c'est toutes les chaînes de montagnes qui vont se trouver autour du plateau tibétain. Et donc, si on commence par le nord-ouest, on commence par l'Asie centrale. Peut-être que l'Asie centrale, ça évoque les routes de la soie pour vous. Et donc là, c'est une région où on a beaucoup de glaciers qui se trouvent dans les montagnes du Pamir. Mmh. Et des très gros glaciers, des glaciers qui, pour certains, font plus d'une centaine de kilomètres carrés. Si on se dirige après un peu plus au sud et un peu à l'est, là on rentre dans la région du Karakoram, et là on arrive vraiment dans les très hautes montagnes, on a les premiers 8000, c'est la région du K2 pour les alpinistes, et là on est à nouveau dans une région, on est encore dans une région qui est très très englacée, avec vraiment des énormes glaciers, des fleuves de glace, qui remplissent des très grandes vallées. Et après, quand on va se diriger de plus en plus vers l'est, on va arriver dans la chaîne de l'Himalaya proprement parlée, dans la chaîne de l'Everest. Et là, en fait, les glaciers, ils sont plus petits. Ils ressemblent quasiment à ceux qu'on a dans les Alpes, un petit peu plus gros quand même, un petit peu différent avec des débris. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et si on continue encore plus à l'est, et ben à nouveau, on retrouve une région très englacée qui s'appelle le Nianshan Tangla, à la frontière entre l'Inde et la Chine, et qui est une région qui est très très peu connue, qui est très très difficile d'accès.
Donc ensemble, on va parler des hautes montagnes d'Asie, pour être tout à fait exact, et pas seulement de l'Himalaya, alors c'est
et
ça hein.
Tout à fait. Si on parlait que de l'Himalaya, ce serait un peu parler que des Alpes. Et puis pour mettre en regard les autres régions qui sont assez loin, il y a souvent, vous disiez, plus de 3000 km qui séparent ces régions. Oui. En fait, nous, c'est un peu comme si on comparait les Alpes et la Scandinavie. C'est un peu l'exercice qu'on va faire pour l'heure qui vient.
Oui. Donc, évidemment, c'est essentiel pour analyser l'évolution de ces glaciers aussi, de rappeler ce que vous venez de faire, la diversité géographique, parce qu'elle correspond aussi à une diversité climatique. Donc, on ne parle pas d'un ensemble uniforme. n'a pas du tout. Hein.
Et tout à fait. Et en fait, on a des contrastes climatiques qui sont très très forts. Donc là, on va prendre aussi peut-être un peu le temps pour que tout le monde soit sur les mêmes bases. Quand on parle de l'Himalaya, on est dans une région qui est influencée par la mousson. Et donc les glaciers, ils fonctionnent très différemment de ceux qu'on connaît dans les Alpes. Mmh. En fait, les précipitations dans cette région, elles arrivent que pendant la saison de mousson, qui est la saison chaude. Et donc les glaciers, ils accumulent de la masse et ils fondent en même temps pendant les mois qui vont de juin à septembre. Et ensuite, l'hiver est très froid, très venteux et très sec. Il n'y a quasiment pas de précipitations en dehors de cette période. Ils ont un régime qui est complètement différent de ceux qu'on connaît dans les Alpes, qui ressemblerait plus au régime des glaciers du Karakoram notamment, où là, on a des glaciers qui accumulent de la neige pendant l'hiver et qui fondent de la neige et de la glace du printemps jusqu'à la fin de l'été.
Donc il faudrait quasiment vous écouter avec une carte des hautes montagnes d'Asie sous les yeux pour essayer de se repérer sur ces 3500 km dont nous allons parler avec vous, Fanny Brun, qui est spécialiste du bilan de masse glaciaire, c'est ça ?
Tout à fait, à la fois des bilans mesurés sur le terrain et par satellite.
Alors qu'est-ce que c'est exactement que la masse glaciaire, pour qu'on comprenne bien là aussi de quoi on va parler ensemble ?
Alors, la masse glaciaire, c'est assez facile, hein. C'est l'ensemble de l'eau qui se trouve sous forme gelée à un endroit donné. Et nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant la masse, c'est l'évolution de cette masse, ce qu'on appelle le bilan de masse, c'est-à-dire la quantité de neige et de glace qui est perdue à l'échelle saisonnière, quand le glacier accumule ou fond, et ensuite à l'échelle annuelle, et puis à l'échelle pluriannuelle.
Ouais, donc ça n'a pas tellement de sens de parler de la fonte des glaciers, en fait, c'est plutôt leur déséquilibre qui peut être intéressant à étudier ?
Tout à fait, nous on étudie les pertes de masse. Quand on parle des bilans de masse des glaciers sur plusieurs années, on parle de la perte de masse des glaciers, parce que la fonte, c'est un processus, et donc tous les glaciers fondent, même les glaciers qui gagnent de la masse fondent à l'échelle saisonnière. À l'heure actuelle, on va revenir sur les chiffres, mais les glaciers sont en déséquilibre et donc la fonte prend une importance démesurée par rapport à l'accumulation, ce qui se traduit par des pertes de masse nettes.
Fanny Brun, vous arrivez à étudier absolument tous les sommets, tous les glaciers de ces hautes montagnes d'Asie ?
Alors, tous les glaciers, sans problème.
C'est vrai ?
Alors, c'est pour ça que, en fait, moi, j'ai deux casquettes.
Ouais.
Je suis à la fois une glaciologue de terrain. Et donc, on a des programmes de suivi de glaciers. Et donc là, en fait, on suit un glacier sur le long terme, on va faire les mesures sur le terrain. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de personnel.
C'est quoi ? C'est un glacier en particulier ?
Tout à fait. On choisit un glacier et après, on ne le lâche plus.
Alors lequel, en l'occurrence ?
Alors, en l'occurrence, le glacier du Mera, au Népal, qui est suivi depuis 2007, hein, donc bientôt les 20 ans du Mera. Mm-hmm. Et donc là, c'est des expéditions. Et donc chaque année, pour mesurer le bilan de masse, il faut aller insérer des jalons dans la glace. Il faut mesurer de combien les jalons émergent et puis les remesurer l'année d'après pour savoir combien il y a eu de fonte, en l'occurrence. Et on va mesurer dans la partie haute du glacier, on fait des carottages. Mm-hmm. Donc on extrait des cylindres de neige pour mesurer la quantité de neige qui a été gagnée à l'échelle de l'année.
Pourquoi vous l'avez choisi, celui-là, alors, en particulier ?
Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, parce qu'en 2007, j'étais pas encore glaciologue. Il a été choisi pour des raisons essentiellement d'accès, hein, parce qu'il il est accessible en à peu près une semaine de trek. Il est situé sur le glacier du... Il est glacier, situé sur le pic du Mera.
Il a quelle altitude, exactement ?
Alors, le sommet est à 6400 mètres d'altitude.
Ah oui.
Et le front du glacier se trouve un peu au-delà de 5100 mètres d'altitude à peu près.
Et vous restez combien de temps quand vous êtes sur place ?
On reste, en général, on reste entre 5 et 10 jours à côté du glacier. On campe à côté du glacier.
Avec des bouteilles à oxygène ou vous arrivez à supporter l'altitude sans
aucun problème ? Non, alors jusqu'à 6400 mètres d'altitude, il n'y a pas de souci d'acclimatation. Hein. On prend le temps de s'acclimater et on ne court pas au sommet. Mais, en tous les cas, on n'a pas de souci pour travailler. Hein.
Donc vous avez un glacier comme sujet d'étude, mais comment on fait justement pour essayer d'étudier l'ensemble de ces glaciers des hautes montagnes d'Asie ?
Et ben là, on s'appuie hein, sur les satellites. Les satellites, en simplifiant, ils vont nous permettre d'avoir une vision sur l'ensemble des glaciers des hautes montagnes d'Asie, mais même sur l'ensemble des glaciers de la surface de la Terre. Par contre, ils ne vont pas avoir la précision des mesures de terrain, et notamment, ils n'ont pas la précision temporelle. Donc, en fait, avec les satellites, on va avoir les changements de masse sur le long terme. Ça nous donne une information qui est très complémentaire des mesures de terrain. mais ça nous permet pas d'aller aussi finement dans les processus que les mesures de terrain. Par contre, ça nous permet vraiment de faire des bilans complets de l'état des glaciers et de voir les contrastes entre les différentes régions. Ouais. Au sein des hautes montagnes d'Asie et sur la Terre entière.
Docteur Fanny Brun, s'il fallait poser un diagnostic justement sur ces glaciers-là en ce moment des hautes montagnes d'Asie, est-ce qu'on peut justement donner un diagnostic général ou est-ce que là aussi il faut être plus nuancé et aborder la complexité aussi de toute la diversité là, qu'on a décrite ?
Alors, on peut faire les deux. Le diagnostic général, nous, on le pose des années 2000 à aujourd'hui. Mmh. C'est là où on a les meilleures données satellites. Avant les années 2000, on est un petit peu aveugle, ou au moins plus flou, on va dire. Donc, le constat des années 2000 à aujourd'hui, le premier constat, c'est une accélération des pertes de masse. C'est vrai à l'échelle globale, ouais. Et c'est très vrai à l'échelle des hautes montagnes d'Asie. Et ça, c'est vrai pour toutes les régions des hautes montagnes d'Asie. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des contrastes régionaux très importants. Quand on se place tout au sud-est de la chaîne, donc la fameuse chaîne du Nianxian Tangla, dont je vous parlais précédemment, là, on a des pertes de masse qui sont très importantes, qui correspondent à des amincissements des glaciers de plus d'un mètre par an. Mmh. Donc, c'est comparable à ce qu'on observe dans les Alpes. Par contre, quand on va à l'ouest des hautes montagnes d'Asie, et notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'anomalie du Karakorum, là, on a des glaciers qui résistent mieux au réchauffement climatique. Et jusqu'aux années 2015-2020, en tous les cas, c'est des glaciers qui étaient proches de l'équilibre, avec des amincissements très faibles, voire par endroits des glaciers qui grossissaient un peu.
On va écouter à ce sujet, donc autour de l'anomalie du Karakorum, un scientifique de l'université de Fribourg, il s'appelle Evan Miles.
Contrairement aux glaciers du monde entier, qui perdent de la masse à un rythme croissant, les glaciers du Karakorum, du Kulunshan et de la région du Pamir oriental ont montré un bilan stable. Ils n'ont perdu ni masse ni volume ces 25 dernières années. Actuellement, ces glaciers fondent. Cela soulève une question : est-ce la fin de l'anomalie constatée ? Font-ils décliner comme les autres glaciers du monde ou bien se rétabliront-ils prolongeant l'anomalie du Karakorum ? Nous souhaitons comprendre ce phénomène et son évolution future.
Voilà Fanny Brun, votre collègue Evan Miles, traduit par Jérôme Boulet. Alors cette anomalie, hein, dans cet ensemble de pertes de masse glaciaire que vous nous décriviez tout à l'heure, pourquoi ils résistent au fond ces glaciers-là au réchauffement climatique alors presque partout ailleurs la glace disparaît ?
Alors, c'est une bonne question, hein, à laquelle, malheureusement, personne n'a de réponse simple. Hein, pour caricaturer, si la réponse simple existait, elle aurait été trouvée ces dernières années, parce que beaucoup de gens se sont creusé la tête sur cette question.
Ouais.
Et, en fait, il y a plusieurs facteurs, probablement, qui expliquent ces bilans proches de l'équilibre sur le début du XXIe siècle. Une des raisons principales, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du bilan de masse des glaciers à un changement de température. Les glaciers qui sont dans des environnements continentaux, qui sont dans des environnements secs et froids, chaque année, ils mettent en jeu peu de masse, ils reçoivent peu de précipitations, ils fondent peu. Et ces glaciers, on sait que quand on augmente la température, ils fondent un peu plus, mais ils réagissent beaucoup moins fort que leurs collègues maritimes, qui, eux, reçoivent beaucoup de précipitations et fondent beaucoup. Donc ça, c'est la première partie de l'explication. Les glaciers du Karakorum, c'est des glaciers qui sont plutôt continentaux. Et donc ça explique le fait qu'ils soient moins sensibles à la hausse des températures.
Et donc, l'autre explication ?
Et donc, l'autre explication, c'est que, quelque part, l'explication que je vous ai proposée, elle part pour une hypothèse d'un réchauffement climatique homogène. Mmh. Donc ça peut expliquer des contrastes si on impose un même réchauffement climatique. Les glaciers peuvent répondre différemment. Mais rien ne nous dit que le réchauffement climatique est homogène. C'est très difficile d'avoir des informations précises sur les différentes tendances entre les différentes régions des hautes montagnes d'Asie, parce qu'il y a très peu d'observations continues de météorologie. Mais il y a un ensemble de faisceaux, de preuves, qui disent qu'on a peut-être plus de précipitations l'hiver. Entre autres, certaines personnes sont allées même jusqu'à proposer des hypothèses que ces changements de précipitations seraient liés à des changements d'irrigation dans le bassin du Tarim, qui est un bassin situé au nord du plateau tibétain. Mmh. Dans ces zones très arides, des petits changements dans l'humidité peuvent avoir des grosses conséquences en termes de précipitations.
Certains disent quand même que cette anomalie, donc cette résistance finalement au réchauffement climatique, toucherait quand même à sa fin. Est-ce que là-dessus, vous êtes à peu près d'accord aussi pour constater des signes ?
Alors, il y a des signes. Il semblerait, dans les données satellites, qu'on commence à mesurer des amincissements importants sur les dernières années, en particulier depuis 2020. Mais on reste encore, à l'heure actuelle, on reste encore sur des bilans qui sont plutôt faiblement négatifs. Mais en tous les cas, c'est certain que l'anomalie va se terminer dans les années qui viennent, parce que le signal du réchauffement climatique est tellement fort, on éloigne tellement les glaciers de leur état d'équilibre, que les glaciers deviennent très peu sensibles à la variabilité interannuelle du climat. On peut reprendre le même exemple, par exemple, dans les Alpes, pour l'année 2024. On a eu un hiver exceptionnel. On a quasiment, à l'altitude des glaciers, on n'est pas très loin des records d'enneigement. Et pourtant, on a une année qui est très déficitaire, alors que 20 ans plus tôt, on aurait eu, dans un climat moins réchauffé, on aurait eu des bilans de masse positifs sur les glaciers.
On va voir quelles sont les conséquences, justement, de la perte de ces masses de glaciers sur ces hautes montagnes de l'Asie et, entre autres, de l'Himalaya, avec vous, Fanny Brun. Et puis, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr et la page de la Terre au Carré.
France Inter, Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Nous sommes à la frontière avec le Tibet. De l'autre côté, c'est le Tibet, et ici, c'est le Bhoutan.
Dans les montagnes du Bhoutan, le groupe est conduit par Karma Toeb, le premier glaciologue du pays. Il vient étudier les conséquences du réchauffement climatique et l'impact de la fonte des glaciers.
Il y a de moins en moins de glace chaque année. Et quand la glace fond là-haut, l'eau s'accumule ici et ces lacs s'étendent.
Il y a 20 ans, ce lac n'existait pas. Un immense glacier de 150 mètres d'épaisseur s'étendait ici. À cause de la hausse des températures dans l'Himalaya, tout a fondu. Alors Karma Toeb est venu effectuer des relevés scientifiques.
Voilà, extrait d'un documentaire d'Arte en décembre 2024 au Bhoutan. Fanny Brun, vous êtes glaciologue et notre invitée pour parler des conséquences du réchauffement climatique sur les glaciers des hautes montagnes d'Asie. Vous me disiez, hors antenne, là, pendant qu'on écoutait Yann Wagner, il n'y a pas beaucoup d'optimisme chez les glaciologues.
Non, ça c'est... Les glaciers sont les grands témoins, les grandes victimes du réchauffement climatique. Sur la trajectoire climatique actuelle, on se dirige vers des pertes de masse de l'ordre du tiers de la masse des glaciers à l'horizon 2100. Et quand on regarde certaines régions peu englacées comme les Alpes, même en respectant la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris, maintenant 1,5 degré, ce qui est en train d'arriver maintenant, et ben même dans ce climat-là, les glaciers ils sont déjà beaucoup trop loin de leur équilibre. Et donc, pour les Alpes, en tous les cas, on a une disparition quasi totale des glaciers dès lors qu'on dépasse 1,5 degré de réchauffement à l'horizon 2100.
C'est-à-dire que vous êtes vraiment habité aussi par ce sentiment-là d'assister d'une façon un petit peu désespérée, j'allais dire, à ce qui se passe autour de vous, partout dans le monde, avec les glaciers ?
Oui, bah c'est forcément, ça crée forcément de l'émotion, de la tristesse. En plus, non seulement les glaciers, ils perdent de la masse, ils se réduisent, mais en plus, l'environnement que ça crée est aussi beaucoup moins beau à regarder. Quand on va sur les glaciers à la fin de la saison de fonte, vers septembre, quand on fait certains des relevés annuels, ben en fait on est dans une montagne qui est beaucoup plus marron, la neige des glaciers est beaucoup plus sale, on voit beaucoup moins ces environnements blancs que moi j'aime particulièrement. Donc c'est sûr qu'il y a de la tristesse, mais aussi ces images-là, elles nous parlent pas que à nous scientifiques. C'est des images qui parlent quand même à beaucoup de monde. Et moi j'ai toujours été frappée par le nombre de gens qui m'ont dit être allés à la mer de glace, descendre les échelles de la mer de glace et réaliser avec les panonceaux qui indiquent la précédente position du glacier, de réaliser avec effarement l'ampleur de ce retrait. Et donc les glaciers c'est aussi des moyens d'action, ça parle beaucoup aux gens, ce sentiment de perte d'un paysage qu'on retrouvera pas.
Donc il faut quand même continuer malgré ce pessimisme qui vous habite.
Bien sûr,
il faut poursuivre.
Il n'y a pas de raison de s'arrêter.
Quand on évoque donc le recul des glaciers, il y a beaucoup d'impacts dont on va parler ensemble. Le premier souvent cité, c'est presque toujours la montée du niveau des océans. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi des glaciers de montagne qui semblent assez éloignés des littoraux jouent en réalité un rôle majeur dans l'équilibre planétaire des mers?
Et oui, j'irais même plus loin que ce que votre propos. Les glaciers, ils stockent très peu d'eau. On estime que tous les glaciers de la Terre stockent environ 30 à 50 cm équivalent du niveau des mers, c'est-à-dire que s'ils fondent entièrement, ils augmentent le niveau des océans de 30 à 50 cm, alors que le Groenland, c'est 7 mètres, l'Antarctique, c'est 57 mètres, donc les glaciers de montagne, c'est vraiment rien du tout.
Ouais.
Et pourtant, ils sont en déséquilibre tellement fort avec le climat, ils réagissent tellement fortement au réchauffement climatique qu'ils restent les premiers contributeurs hors expansion thermique, à la hausse du niveau des mers. Et ça c'est vrai jusqu'à la fin du siècle.
Quelle est leur contribution exacte alors par rapport à l'élévation du niveau des mers en tant que glacier par rapport à tous les autres facteurs,
hein? Alors, les glaciers, c'est environ, si on prend la perte de la cryosphère, les glaciers, c'est environ la moitié,
ouais.
Enfin c'est entre un gros tiers et la moitié, et ensuite on a le Groenland et l'Antarctique.
Ouais, donc c'est une contribution qui est quand même particulièrement préoccupante, hein, non seulement par son volume, mais aussi par la vitesse à laquelle ça se produit.
Tout à fait, et surtout c'est une contribution qui suit directement la trajectoire climatique, hein, donc qui augmente pour chaque demi-degré de réchauffement.
Si on se place maintenant à l'échelle régionale dans ces hautes montagnes d'Asie, Fanny Brun, pourquoi la situation est encore plus critique pour l'Asie elle-même que pour d'autres région du monde, donc?
Alors, la situation est plus marquée en Asie parce qu'on a des gros glaciers près desquels un certain nombre de gens vivent.
C'est-à-dire, pour être plus précis?
C'est-à-dire qu'on a des glaciers qui sont situés par exemple dans le bassin de l'Indus, hein,
ouais.
Qui irriguent tout le bassin, toute la plaine agricole entre l'Inde et le Pakistan.
On dit qu'un milliard de personnes dépendent à peu près de ces eaux, c'est exact selon vous ou pas?
Alors, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus compliqué à contextualiser, à critiquer. C'est vraiment un sujet qui est très délicat, parce que, pour un certain nombre de raisons, mais une des raisons principales, c'est que même si les glaciers n'étaient plus là, on aurait encore de l'eau qui arriverait. Simplement parce qu'un des rôles des glaciers, c'est de retarder le passage de l'eau dans le système. C'est-à-dire que le glacier, comme la neige, stocke les précipitations sous forme solide pendant l'hiver, puis les relargue pendant l'été. Et donc c'est là où on va revenir sur la climatologie qu'on a discutée au début. Ça, cet effet-là de retard de stockage saisonnier de l'eau, il est très très fort à l'ouest de l'Himalaya, où les glaciers fonctionnent comme les nôtres. Les glaciers accumulent de la neige pendant l'hiver, puis ils relarguent cette fonte,
ouais,
au cours du printemps et de l'été. Et donc là, par exemple, dans le bassin de l'Indus, ça joue un rôle très important, parce que le printemps et l'été, c'est l'époque où les gens cultivent, et c'est plutôt une période qui est assez sèche, parce qu'on n'a pas l'influence de la mousson.
Donc on a besoin de l'eau.
Donc on a besoin de l'eau de ces glaciers, qui, vraiment, dans le bassin de l'Indus, on a l'eau des glaciers qui va recharger les nappes phréatiques, qui sont pompées par les gens. Donc les effets ne vont pas forcément se voir tout de suite, mais là on a des vraies contributions des glaciers aux écoulements. Par contre, ce constat, il est aussi à nuancer, parce que si on va dans les régions qui sont influencées par la mousson, la saison de fonte, elle est concomitante avec la mousson. Et donc, quand les glaciers fondent, il y a énormément d'eau qui arrive déjà dans les bassins par la précipitation.
Donc, il y a une sorte d'équilibre, on pourrait dire?
Alors, ce n'est pas forcément un équilibre. C'est juste que les glaciers, ils vont fournir de l'eau à cette période de l'année. Mais ce n'est pas de l'eau qui est très utile, parce qu'il y en a déjà beaucoup.
Oui.
Et donc, là, l'agriculture ne dépend pas du tout de l'eau des glaciers dans ces régions-là.
Donc, il y a quand même, effectivement, des secteurs agricoles qui sont les premiers menacés par cette raréfaction de l'eau des glaciers, hein, dans certaines parties justement cette partie asiatique. Hein.
Et surtout, en particulier, un changement de saisonnalité, parce que les glaciers, ils retardent le passage de l'eau dans le système hydrologique. Et donc, en fait, s'ils ne sont plus là, la saisonnalité de l'eau disponible, elle change. Elle arrive par exemple plus pendant l'hiver, qui est en tous les cas, qui est une saison moins adaptée aux cultures actuelles.
Est-ce qu'il y a aussi de nouveaux phénomènes naturels qui se manifestent à cause de cette raréfaction ou pas?
Alors en effet, c'est l'objet du documentaire, du reportage qu'on entendait sur le Bhoutan. Avec le retrait des glaciers, Il y a des lacs qui se développent, donc des lacs d'altitude, à proximité des glaciers, qui sont retenus par des moraines, donc par des dépôts des glaciers, qui peuvent contenir parfois encore de la glace. Donc là, on commence à voir que la situation est un petit peu dangereuse, parce que ces barrages moréniques peuvent céder. Voilà, et donc c'est des choses qui arrivent régulièrement. Il y a eu en octobre 2023 au Sikkim.
C'est un petit état en Inde, c'est ça ?
Tout à fait.
Nord-est de l'Inde.
Exactement, vous êtes incollable.
Ah bah, on a préparé les fiches. Hein.
Il y a un lac glaciaire sur lequel donc il y a eu une vague de débordement qui a détruit le barrage naturel. Et donc là, on a eu des impacts plus d'une centaine de kilomètres à l'aval du lac, avec, on estime, une centaine de morts et une centrale hydroélectrique entièrement détruite, une quinzaine de ponts détruits, donc vraiment des impacts très forts.
Ouais. Donc il y a ces bombes hydrologiques là, qui sont quand même de temps en temps, qui se manifestent et qui sont assez inquiétante.
C'est assez inquiétant, d'autant que la grosse difficulté, c'est que au Sikkim, c'est plutôt un gros lac qui a lâché, c'est bon, plus de 50 millions de mètres cubes d'eau, c'est énorme. Hein. Mais en fait, ce que nous apprennent d'autres tragédies, c'est que de très petits lacs peuvent aussi avoir des conséquences très importantes. Au Népal, par exemple, en 2024, on a eu un tout petit lac qui a complètement détruit un village à l'aval.
Ouais. Donc tout ça étant lié encore à ces événements, à cette raréfaction de la masse des glaciers dont vous parliez tout à l'heure.
Alors c'est des phénomènes qui arrivent hors réchauffement climatique actuel, mais le réchauffement climatique actuel conduit à une diminution des glaciers et à une augmentation des lacs qui prennent leur place. Et donc, bah forcément, un risque qui augmente quand même, malgré tout.
Face à ces menaces donc, qui s'accélèrent, eh bien, la recherche scientifique, le travail que vous menez, Fanny Brun, ressemble de plus en plus à une course contre la montre. Et puis, l'étude également, on le verra, des archives glaciaires, extrêmement précieuses dans ce contexte. On va en discuter avec vous dans un instant. Et puis, vous répondrez aux messages, aux questions, aux messages vocaux également, si vous souhaitez nous rejoindre sur l'application Radio France. On parle de ces glaciers de l'Asie, mais pas seulement d'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre avec d'autres questions.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
À plus de 2600 mètres d'altitude, dans les montagnes himalayennes du Cachemire indien, la station de ski de Gulmarg est au point mort. La neige est quasiment absente, du jamais vu pour un mois de janvier. La vallée enregistre son hiver le plus chaud en 4 décennies. Sur les pistes, quelques taches blanches parsèment les plaines asséchées. Un paysage aride aux allures printanières. Le département météorologique de Srinagar a enregistré un déficit de neige de 80% par rapport à 2022. Un dérèglement climatique qui se traduit également par des températures 6 à 8 degrés plus élevées que la normale.
Alors ça, c'était il y a un an, en mars 2024, documentaire de France 24, Fanny Brun, vous qui êtes glaciologue. Quand on remarque justement ce manque de neige là, à cet endroit, l'année dernière, est-ce que cette disparition de la neige, elle se fait de façon assez égale d'année en année, ou est-ce qu'il y a de grandes différences selon les années justement ?
Alors c'est justement l'enneigement, c'est vraiment une variable qui est compliquée parce que en fait c'est une variable qui a une très grande variabilité dans le système climatique et en fait c'est la même chose en Europe, dans les Alpes, malgré le réchauffement climatique, on a des tendances qui sont fortes sur la diminution de l'enneigement. Mais malgré tout, on a encore parfois des hivers bien enneigés.
Donc, ça nous permet de rappeler que la question climatique, ça se regarde sur de longues périodes et pas juste sur des événements locaux ou annuels.
Exactement, c'est tout à fait la réflexion. Et à l'échelle des hautes montagnes d'Asie, on est aussi un petit peu désemparé pour mesurer la variabilité de l'enneigement, parce qu'on peut s'appuyer uniquement sur les satellites. Il n'y a pas de mesure continue, homogène, à l'échelle de toute la région. Et les mesures qui sont de qualité suffisante, elles commencent dans les années 2000. Donc, on a à peine 25 ans de recul. Donc, on voit des tendances à la diminution de l'enneigement, mais elles restent, entre guillemets, plus fragiles les tendances de perte de masse des glaciers qui sont vraiment univoques.
Et là, on parle du début du 21e siècle. Rester raisonnable et puis continuer, évidemment, les travaux de recherche. Vous qui partez donc régulièrement sur ces hautes montagnes asiatiques et qui venez de Grenoble, est-ce que vous travaillez parallèlement aussi sur les Alpes ou pas ? Est-ce que c'est intéressant de pouvoir comparer ce qui se passe dans ces deux parties du monde ou pas ?
Tout à fait. Déjà, alors moi, côté alpin, je suis en support des collègues. Hein, c'est pas moi qui suis responsable des programmes d'observation, mais j'ai beaucoup de plaisir à partager l'expertise avec les collègues. Et donc, en fait, on apprend beaucoup de ce qu'on connaît près de chez nous, notamment pour le développement de techniques de mesure, d'instruments de mesure. On s'appuie beaucoup sur les développements qui sont faits ici, qui sont testés sur le terrain ici, et que après nous, on peut aller exporter. Au Népal ou au Tadjikistan.
Observer les glaciers, alors ça consiste pas seulement justement à documenter, à travailler au moment où on discute, mais c'est aussi repartir dans le passé avec des archives naturelles qui sont très importantes aussi. Donc s'intéresser au climat du passé, Fanny Brun, c'est quelque chose aussi, c'est un pan de la science dans cette étude des glaciers aujourd'hui.
Tout à fait, donc les carottes de glace très connues qui nous renseignent sur le climat passé, celles qui nous permettent de remonter le plus loin, elles se trouvent évidemment en Antarctique. Hein. On a parlé des forages Epica, Beyond Epica, avec de la glace qui a plus d'un million d'années. Nous, pour les glaciers de montagne, on va être sur une toute autre échelle de temps. On va pouvoir remonter jusqu'à 1000 ans, parfois 10 000 ans dans certains cas.
Vous êtes petit joueur à côté.
Mais
hein.
Voilà, on fait modestement ce qu'on peut faire.
Ouais.
Mais par contre, nous, il va y avoir tout l'intérêt de remonter, pas forcément sur des reconstructions climatiques, mais surtout sur des histoires de polluants, de contamination, de sources, de poussière, par exemple, qui arrivent sur les glaciers.
Ouais.
Et donc, c'est entre autres à ça que servent ces carottages profonds dans les glaciers de montagne.
Est-ce que ces archives, justement, glaciaires, elles peuvent aussi servir à anticiper l'évolution future du glacier, ou c'est vraiment un travail d'histoire ?
C'est vraiment plus un travail d'histoire. Par contre, le problème, c'est que ces archives, elles peuvent se retrouver menacées. Donc, vous avez probablement entendu parler du projet Ice Memory, qui vise à préserver des carottes de glace sur des glaciers qui perdent de plus en plus de masse. Et donc nous, un des glaciers sur lequel on travaille au Tadjikistan, qui est le glacier Fetchenko, il y a un site qui a été identifié pour être prometteur pour un carottage. Et donc il y a des analyses qui ont été faites sur ce site en 2005, qui ont montré que c'était un site qui était très favorable pour l'enregistrement des archives climatiques. Et là, on a des collègues qui sont retournés au même endroit en 2025, et ils ont remarqué ils ont observé que le site avait drastiquement changé. La neige qui se trouve à cette altitude, hein, parce qu'on est dans la zone d'accumulation qui reste tout le temps en neige, la neige est beaucoup plus remplie d'eau et de glace, d'eau liquide et de glace. C'est-à-dire que ce site est actuellement en train de perdre sa capacité à enregistrer un signal climatique. Donc pour l'instant, tout le signal historique est bien préservé.
Ouais.
Ça concerne que le haut de la carotte. Mais on est dans une situation où à l'échelle de quelques années, ce site ne sera plus capable de fournir la suite de l'enregistrement.
Justement, vous évoquez Ice Memory pour la mémoire des glaces, ce programme auquel vous participez aussi, tout comme le scientifique que nous allons écouter, Jérôme Chaplaze.
Faute de pouvoir stopper l'inexorable fonte des glaces, Carlo Barbante et Jérôme Chaplaze, deux glaciologues de renom, entreprennent une vaste opération appelée Ice Memory.
Le projet de Carotte Patrimoine, la mémoire de la glace, comme on l'appelle, consiste à aller visiter des glaciers qui aujourd'hui sont sous l'effet du réchauffement climatique en train d'être vraiment en danger, de disparaître d'une part, et même avant de subir des épisodes de fonte estivale qui fait que la glace n'est plus bonne à enregistrer les paramètres atmosphériques, climatiques, etc. Prélever des carottes jusqu'au socle rocheux, en utiliser une pour réaliser des analyses de référence avec tout ce qu'on sait faire aujourd'hui sur une carotte de glace, de manière à ce que les générations futures disposent d'une base de données de référence.
Voilà, le glaciologue Jérôme Chaplaze, et ça, cette initiative se fait sur les glaciers du monde entier, Fanny Brun ?
Tout à fait, il y a eu des forages qui ont été réalisés en Amérique du Sud, à l'Illimani, il y a eu un forage à l'Elbrouz, et là, très récemment, l'été dernier, il y a eu un forage au Tadjikistan.
Oui.
Donc malheureusement, l'équipe n'a pas réussi à aller sur le glacier Fetchenko, qui était initialement envisagé pour des raisons logistiques, mais par contre, ils ont réussi à prélever une carotte sur une petite calotte, donc on attend les résultats de l'analyse avec pas mal d'impatience. Et un grand succès du programme Ice Memory, hein, dont on a parlé récemment, c'est que les premières carottes prélevées ces dernières années sont arrivées en Antarctique dans ce qui est appelé le sanctuaire.
Le frigo, en
voilà.
fait.
Le frigo, frigo dans le frigo. Naturel, tout à fait. Donc,
pour préserver
voilà.
Ses archives.
Tout à fait, donc un beau succès pour le programme Ice Memory.
Est-ce que vous êtes inquiète sur l'avenir de la recherche internationale, justement, vous qui êtes glaciologue, avec ce qui se passe par exemple aux États-Unis et le travail avec les scientifiques a beaucoup évolué et les contraintes liées aussi à l'administration Trump. Est-ce que ça joue sur vos travaux ou pas?
Alors, à très court terme, plutôt non. Par contre, l'administration Trump a tapé très fort hein, sur les universités et les agences fédérales, en particulier celles impliquées sur la recherche sur le climat. Et donc, en fait, ils ont surtout instauré un climat de peur qui est assez fort, puis d'insécurité sur les financements à venir. Donc oui, je pense que tout le monde est inquiet dans la communauté scientifique.
Allez, on passe aux questions. Une question de Lily pour commencer et qui demande si la perte de masse des glaciers a un impact visible dans notre quotidien.
Ah, très bonne question. Ça dépend le quotidien de qui.
Et où ?
Ça dépend tout à fait où on se trouve. Mm-hmm. C'est un impact très visible pour les gens qui vivent à proximité des glaciers, en particulier les gens qui vivent du tourisme lié à la visite des glaciers. Par exemple, à Chamonix, c'est très visible que les glaciers sont moins visibles, justement. Mm-hmm.
Sur la montée des eaux, ça aussi, ça concerne
sur la montée des eaux, hein, c'est évidemment
des littoraux. Hein.
Tout à fait. Alors, c'est moins visible parce qu'il faut quand même le mesurer avec des instruments un peu sophistiqués. Mm-hmm. Mais c'est aussi des impacts très nets. Quoi.
Sylvie demande, est-ce qu'il y a une accélération de la fonte due à la libération de gaz ou autre phénomène?
Alors, ça, c'est des sujets sur lesquels je ne suis pas spécialiste. J'imagine que Sylvie fait référence à la libération des clatrates de méthane dans le pergélisol en Sibérie.
Vous pourriez nous préciser?
Alors, ça fait partie des inconnus hein, du système climatique. Mmh. Il y a un certain nombre de méthane qui est piégé sous une forme actuellement peu réactive dans le sol gelé en Sibérie. Mmh. Sous l'effet du réchauffement, le méthane peut être libéré, et le méthane est un gaz à effet de serre très fort, ouais. qui a la capacité d'amplifier le réchauffement.
Ouais. Et ça, c'est une des grosses inquiétudes pour le futur, quand même, hein, voilà, la libération de ces poches de méthane.
Hein. Tout à fait. Hein. Donc, ça fait partie des sujets de recherche aussi assez actuels. Mmh. Par contre, à l'échelle des glaciers alpins, enfin des glaciers tout court, les glaciers ne stockent pas de méthane. Ouais. Donc eux, ils font que perdre de la glace.
Roman demande si à terme la glaciologie en tant que discipline scientifique pourrait disparaître elle aussi, tout comme vos glaciers.
Alors, très bonne question.
Ce qu'on ne vous souhaite pas, évidemment.
Non, parce que même à l'horizon 2100, hein, il reste encore beaucoup de glace. Moi, le glacier que j'étudie au Tadjikistan, le glacier Fetchenko, il contient plus de glace que tous les glaciers des Alpes réunis. Et donc lui, en 2100, il sera encore au rendez-vous.
Ouais. Et puis enfin, Sandrine nous dit à propos des conséquences de la fonte des glaciers, il y a cet exemple évidemment du village de la Bérarde, détruit par l'écoulement soudain d'un petit lac glaciaire. C'est le même phénomène que vous nous décriviez tout à l'heure.
Oui, alors le rôle précis de la vidange du lac glaciaire dans l'événement de la Bérarde n'est pas complètement établi. Il joue un rôle, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Oui, des conséquences, y compris, comme on le disait tout à l'heure, hein, des petits lacs qui peuvent avoir des grosses conséquences.
Merci beaucoup Fanny Brun d'être venue au micro de la Terre au Carré et d'avoir fait le voyage depuis Grenoble pour venir nous parler donc de ces glaciers des hautes montagnes d'Asie. Merci infiniment à vous et merci beaucoup à Lucie Sarfati qui a préparé à ce dossier, Anne-Laure Cochet qui était à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.